Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 3 novembre 2015. Merci de nous recevoir chez vous. Le grand dialogue d'aujourd'hui parle de la circulation routière, de la sécurité routière avec trois acteurs. Professeur Django Dibo, chef du service des urgences à l'hôpital Gabriel Touré, et colonel Djibril Tamboura de la protection civile, et également avec nous Mokhtar Moussa Touré de l'association Siraba Lakanda. Merci, je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré est à la technique. Cette année au Mali, les statistiques de la sécurité routière révèlent 296 décès et près de 15 000 blessés rien que pour la période de juillet, août et septembre, troisième trimestre donc de l'année. La route a causé la mort de 87 personnes. L'année 2015 connaît donc une recrudescence sans précédent d'accidents meurtriers. Selon une enquête de journaldumali.com, un nombre important d'usagers ignorent le contrôle tenu du code de la route. L'étude révèle que les personnes concernées ne passent pas par les centres d'apprentissage à la conduite ou, en d'autres termes, auto-école. La mise en pratique de certaines mesures de sécurité est parfois secondaire aux yeux de beaucoup de citoyens au Mali. Ainsi, les équipements de sécurité que sont la ceinture de sécurité ou encore le casque et les rétroviseurs ne font ou n'ont jamais fait partie du quotidien donc des usagers. Alors aujourd'hui nous parlons de 87 morts rien que pour le troisième trimestre de 2015. Alors Djibril Tamboura, vous êtes colonel donc à la protection civile. Qu'est-ce qui a causé tous ces accidents et tous ces décès?
Merci bien de me donner l'opportunité de m'exprimer pour parler d'accident de la circulation en tant que sapeur-pompier tout court, en tant qu'agent de la protection civile. Qu'est-ce qui a causé tous ces accidents? Eh bien, je pense que c'est le facteur humain. Puisque c'est le comportement humain qui est vraiment déviant dans les accidents de circulation. Donc, il faut qu'on aille vers un changement de mentalité, un changement de nos comportements tout court. Puisque nous sommes dans une ville en pleine effervescence, plus de 2 millions d'habitants, donc je pense que chaque Malien doit se soucier du lever au coucher du soleil, de son domicile à son lieu de travail, de quoi demain sera fait, puisque tout le monde peut être sujet à accident de circulation. Du papa à l'enfant qui va à l'école, à la maman qui va au marché, donc tout court au Bamako, sinon au Malien. Donc je pense que le facteur humain est très important dans les nombres élevés des accidents de circulation aujourd'hui.
D'accord. Merci beaucoup au colonel Djibril Tamboura de la protection civile. Alors, que disent les médecins pour cela? Nous avons le professeur Django Dibo, chef du service des urgences à l'hôpital Gabriel Touré. C'est bien ça, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous annonce 87 décès, rien que pour le troisième trimestre de 2015. Qu'est-ce que ce chiffre vous dit?
Permettez-moi, avant de commencer, de remercier la radio au Tamani et remercier ceux qui ont initié cette rencontre qui, à mon âme, la vie doit tout à fait être initiée parce que nous vivons tous les jours les accidentés de la circulation.
Nous vous remercions également car il n'est pas facile de vous avoir dans le studio. C'est la première fois que nous vous avons.
Merci. En tout cas, je ne sais pas d'où vous tirez vos chiffres. Je pense que ça, c'est des chiffres certainement donnés par peut-être la protection civile, en tout cas donné avant l'hôpital. Voilà, la NASER, donc donné avant l'hôpital. Ce qui est totalement différent des chiffres que nous avons à l'hôpital, parce que nous, c'est notre quotidien. Pour vous donner juste une idée de ce que nous avons, le service d'accueil des urgences, que d'ailleurs d'aucuns appellent le service des accidentés, parce que ça représente quand même à peu près 40 jusqu'à 43-45% de l'activité de ce service-là. Et nous avons chaque année une moyenne de 25 000 admissions dans ce service-là. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut représenter les accidents de la voie publique. Et dans ça, nous avons 11% de décès. Si vous évaluez un peu 11% de décès, c'est énorme. C'est énorme. C'est totalement différent des chiffres qui sont donnés.
Alors, est-ce que vos chiffres sont en deçà ou bien au-dessus de ce que j'ai annoncé, 87 morts?
Je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que nous avons ce qu'on appelle les décès hospitaliers. Parce que quand on regarde la définition du décès accompagné d'un accident de la circulation, selon les pays, ça peut varier de 1 jour à 3 mois. Donc, c'est forcément au-delà de ce que la protection civile, la police rapportent.
Exactement.
Voilà, donc c'est beaucoup plus que ça. C'est pourquoi nous, en tout cas moi, dans le service, j'ai coutume de dire que les accidents de la voie publique constituent une hécatombe pour une bonne partie de la population.
D'accord. Alors, merci beaucoup, professeur Django Dibo, du service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, Mokhtar Moussa Touré, vous êtes de l'association Siraba Lakana, une association qui milite pour permettre la sécurité sur les axes routiers donc au Mali. Alors, présentez-nous brièvement votre association et qu'est-ce que vous faites dans le domaine.
Je remercie d'abord le studio Tamani de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de nous exprimer sur leurs antennes. L'association Siraba Lakana que je dirige est créée en 2009. Et depuis 2009, l'association Siraba Lakana mène des activités de sensibilisation, d'information, de formation et d'assistance aux victimes des accidents de la route. L'association Siraba Lakana a toujours œuvré aux côtés de l'Agence nationale de sécurité routière, qui est un département gouvernemental. Et du jour au jour, nous sommes dans les axes, les grands axes routiers, pour sensibiliser les usagers à changer de mentalité, à changer de comportement. Donc, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous avons assez fait auprès du gouvernement. Nous avons ensemble, le gouvernement et nous avons beaucoup sensibilisé. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête avec la sensibilisation et aller à la répression. Sans la répression, nous ne obtiendrons pas un résultat. Il faut carrément aller à la répression.
Merci beaucoup, Mokhtar Moussa Touré de l'association Siraba Lakanda. Alors, professeur, je reviens vers vous. Alors, il y a un nombre conséquent également de blessés. Peut-on estimer le nombre de personnes qui tombent dans des cas d'handicap, par exemple? Est-ce qu'on peut identifier ce nombre-là par rapport au nombre de décès et de blessés?
En fait, c'est difficile de donner un chiffre exact parce que quand nous on parle d'handicap, ça va de l'handicap physique à l'handicap mental. Parce que vous voyez, c'est très large. Donc pratiquement tous ces accidentés qui arrivent, quand on regarde, on a pratiquement près de 50% où les membres se trouvent impliqués. C'est-à-dire que c'est des accidentés qui vont présenter une fracture au niveau soit du membre inférieur, du membre supérieur, où souvent la tête se trouve être impliquée. Donc tout ceci, ils vont être forcément diminués sur le plan physique. Donc si on essaie de faire une estimation, on peut dire qu'à peu près de 50% de ceux-ci auront un petit handicap.
Auront des séquelles après ces accidents.
Voilà. Pour ceux qui ne meurent pas, on va avoir beaucoup d'entre eux qui vont garder des séquelles, soit sur le plan mental ou sur le plan physique, de leurs événements malheureux.
Merci beaucoup, professeur Django Dibo, du service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, sur ces 296 victimes que j'ai évoquées tantôt à l'entame de cette émission, plus de 100 sont des motocyclistes et des jeunes touchés donc par ces cas. Alors, colonel Dibril Tamboura de la protection civile, quelle place occupent les jeunes dans ces cas d'accident dont nous parlons?
Oh, merci. Comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, les chiffres que vous avez donnés tantôt sont des chiffres de l'ANASER. Je rejoins le professeur dans ce qu'il a affirmé. Nous avons des chiffres plus élevés parce que, vous savez, nous sommes au cœur des accidents de la circulation à travers quand même le district de Bamako. Nous sommes les plus alertés. Et nous avons des statistiques plutôt fiables. Si l'hôpital, l'urgence de l'hôpital Gabriel Touré détient des chiffres, je pense que nos chiffres peuvent vraiment se rapprocher. Donc je ne sais pas comment est la provenance de vos chiffres, mais nous avons aussi déjà des chiffres qui sont vraiment...
Tout aussi alarmants que ces chiffres.
Très alarmants déjà.
Alors quels sont ces chiffres-là?
Eh bien, déjà au premier trimestre 2015, nous avons enregistré 106 morts. Au deuxième trimestre, nous étions à 116. Au troisième, deuxième, nous avons déjà atteint des 100 morts pour les accidents de la
circulation. Donc, pour un total de près de 500 morts.
C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que nous savons que ces chiffres-là vont aller en augmentant parce que nous approchons.
L'année n'est pas terminée encore.
L'année n'est pas terminée. Nous approchons de la fin de l'année, la fin, comment dire, les festivités de fin d'année.
Alors, la période des vacances a été la période la plus meurtrière de cette année.
La plus meurtrière, surtout dans la ville de Bamako, avec des enfants qui s'adonnent au volant, l'alcoolisme. La fougue juvénile, et puis vraiment des enfants surtout qui ils viennent de l'extérieur, qui sont venus passer les vacances ici, mais malheureusement...
Des binationaux, ou bien même des étudiants
voilà,
des qui étudiants, rentrent.
Donc malheureusement qui sont attrapés par les accidents de circulation. Comme vous l'avez dit, la problématique c'est surtout les engins à deux-roues à Bamako. Vous le saviez, c'est surtout le transport public qui est défaillant. Si le transport public est défaillant, le souci de chaque père, c'est d'offrir un moyen de transport à son enfant pour qu'il arrive à l'école. Mais la moto peut-être un moyen de transport pour quelqu'un qui a 40-45 ans. Mais c'est un moyen privilégié de se montrer pour un jeune de 15 à 17 ans, à 18 ans. Et c'est, ouais, donc ce qui fait qu'ils vont vite, les routes sont mauvaises, et les casques, les non-ports du casque. Et puis surtout les transports publics avec les sotrama. Donc, voilà un pays, ce qui augmente les incidents de circulation à Bamako. La plupart du temps, c'est vraiment ces motos Jakarta là, qui sont vraiment
à l'origine
de ces accidents de circulation. Voilà.
Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani réfléchit sur la sécurité routière. Alors, les chiffres donc de 296 décès que j'ai annoncés tout à l'heure sont revus à la hausse avec ce que vient de nous dire le colonel Dibril Tamboura de la protection civile. Selon le colonel, donc, ces chiffres sont à la hausse, plus près de 500 décès en seulement 9 mois de cette année en cours. Alors, rien que pour les trois trimestres, plus de près de 500 décès. La route a donc causé la mort de près de 500 personnes donc au Mali, principalement donc à Bamako. Alors, l'année n'est pas terminée. C'est la période des vacances qui a été la plus meurtrière et il faut peut-être demander plus de prudence pour la période des fêtes de fin d'année qui s'approche. Alors, nous sommes là pour en débattre. Alors, Mokhtar Moussa Touré de l'association Siraba Lakanda, association qui milite pour la sécurité routière, sensibilisation et autres activités dans le domaine. Aujourd'hui, nous avons vu, c'est les jeunes qui sont le plus impliqués dans ces nombreux cas d'accidents et parfois qui amènent, selon les médecins, c'est près de 50% des cas de blessés qui sont donc enregistrés parmi des maladies donc causant des maladies invalidantes. Aujourd'hui, quelle est la place des jeunes dans vos activités de sensibilisation, Mokhtar?
Effectivement, nous sommes une association des jeunes pour la sécurité routière. C'est-à-dire notre rôle, nous, association Siraba Lakana, j'ai rejoint mon colonel. Effectivement, c'est nous les jeunes qui sommes les plus victimes aujourd'hui à cause des motos, à cause de véhicules. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir pallier à ce problème? Nous, notre association, nous avons des matériels par lesquels nous faisons des démonstrations pour montrer aux jeunes ce qui les attend s'ils se comportent dans la circulation. Quels sont nos matériels par lesquels nous faisons des démonstrations? Nous avons des casques en miniature que nous appelons des casques à neuf. c'est des casques dans lesquels nous mettons un œuf cru et nous le faisons chuter et on voit comment ça protège. C'est-à-dire lorsqu'on se trouve en moto et qu'on ne porte pas les casques, si on a un véhicule s'est fait, tu t'es fait percuter par un véhicule ou toi-même par une mauvaise manœuvre, voilà ce qui t'attend. Donc nous avons aussi des lunettes sur lesquelles nous avons un taux d'alcoolémie de 1, jusqu'à 0, et quelques pourcents.
Pour donc, montrer un peu la vision pour qu'on peut avoir vision, en cas de d'éveilité.
Effectivement, pour montrer la vision, vous qui n'avez pas pris encore l'alcool, voilà, il faut porter, il faut voir. Et quand vous allez prendre de l'alcool et être au volant, voilà la vision exactement que vous allez avoir. C'est-à-dire, ça donne une
vision. Vous menez ces activités dans quelle zone? Est-ce que c'est les écoles qui sont ciblées? Est-ce que c'est les espaces de divertissement? Expliquez-nous un peu.
Effectivement, nous le faisons dans les espaces de divertissement. Actuellement, il y a des activités qui se font au Palais de la Culture. Donc, à chaque fois que nous voyons l'occasion où il y a d'attroupement de jeunes, nous les approchons et nous faisons des démonstrations. Ils voient de leurs propres yeux et voilà, et même ils en tirent la conclusion. Et surtout dans les écoles aussi, nous passons d'école en école. Effectivement, il y a d'énormes écoles, mais nous passons d'école en école, nous faisons ce que nous pouvons faire pour pouvoir diminuer les accidents.
Merci beaucoup au Mokhtar Moussa Touré de l'association Siraba Lakanda. Alors, professeur Django Dibo du service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, aujourd'hui la loi limite l'âge pour pouvoir conduire un véhicule à 18 ans et un engin à deux roues à 16 ans. Aujourd'hui, est-ce que les victimes que vous accueillez dans votre centre ont ces âges dont nous parlons?
En fait, on retrouve, je suis d'abord très content d'écouter
Mokhtar
par rapport à tout ce qu'ils font, parce que quelque part, moi, je dis qu'ils m'aident en fait. Ils m'aident. Parce que quand moi, je vois tout ce que nous avons comme charge de travail entraînée par les accidentés de la voie publique, c'est énorme. Donc, si eux, ils font des actions de ce type-là, c'est à saluer. C'est à saluer. Maintenant, par rapport aux âges. Nous avons pratiquement tous les âges parmi les accidentés qui arrivent au niveau des urgences. Imaginez-vous, nous avons pratiquement 2% de nos admis qui ont moins de 4 ans. 2% qui ont moins de 4 ans. Ça veut dire que ça, c'est des impliqués dans les accidents de la voie publique. C'est
peut-être une maman.
C'est ça, c'est peut-être une maman qui a un enfant au dos. C'est peut-être un enfant qui va à l'école, qui se trouve à être renversé. Donc, on a pratiquement tout le monde. Maintenant, par rapport à l'âge, et là aussi, c'est totalement différent de ce que prévoit la loi. Et je me rappelle, un jour, j'étais au niveau du service d'accueil des urgences, et on me dit que tiens, il y a deux décès constatés à la porte des urgences. Deux décès. Et j'arrive, je trouve en fait deux jeunes filles qui pratiquement ont moins de 15 ans. Ont moins de 15 ans, et à la limite. C'est pour la première fois, parce que secondairement, quand j'ai reçu les parents, ils me disent que, le papa me dit que je venais de les acheter la moto. Il y a juste une semaine. Oui, il y a juste une semaine. Donc, ça veut dire que c'est pratiquement...
Elles étaient en phase d'apprentissage.
C'est ça, en fait. Elles sont en phase d'apprentissage. Elles ne connaissent rien du code de la route. Pratiquement, elles ne connaissent même pas ce que c'est que Bamako, à la limite. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en fait... Ces âges qui sont donnés comme repères ne sont pas du tout respectés.
Et les parents sont les principales
forcément parce que c'est le papa qui va, c'est le parent qui va payer la moto. Donc de facto, moi je suppose que c'est le parent qui doit savoir que mon enfant n'a pas encore l'âge de conduire une moto, n'a pas l'âge de conduire un véhicule. Parce que ça arrive aussi, on a des enfants très jeunes qui sont sans permis pratiquement.
Embarquent dans les véhicules.
Oui, tout à fait. Et là aussi, tout récemment, on a eu un cas comme ça. Je pense que les pompiers peuvent le témoigner. Des enfants, 4 heures du matin, totalement ivres.
Sortant d'une boîte de nuit.
Qui vont carrément rentrer dans un arbre. Et pratiquement tous les occupants sont décédés. Imaginez-vous ce que ça fait. Et quand on essaie de voir un peu l'âge de ces enfants, c'est tous des enfants qui ont moins de 18 ans.
Des mineurs.
Quelque part, voilà, c'est ça, des mineurs. Donc, quelque part, je me dis que papa et maman sont un peu responsables quand même. Parce que ces enfants ne peuvent pas acheter un véhicule. Ces enfants, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui les a offert ce véhicule. Donc, quelque part, papa et maman sont quelque part responsables. Donc, je pense qu'il faut... c'est pourquoi je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Il faut que maintenant, on passe à une vitesse supérieure. Voilà, la sensibilisation, oui, on continue la sensibilisation, mais derrière la sensibilisation, il faut quand même des actions de sanctions maintenant.
Sanctions.
Il faut commencer à
sanctionner. Il faut que la loi s'exprime.
Voilà.
Alors, justement, pour que la loi puisse s'exprimer, on a vu des campagnes de port de casque avortées au dernier moment. La loi devait rendre le port du casque obligatoire, mais à un certain moment, les autorités ont enclenché la marche arrière. Alors, pourquoi il est si difficile de faire respecter la loi, colonel Dibril Tamboura?
Bon, peut-être que, chez les journalistes, ça, ce n'est pas de mon ressort. Eh bien, je suis là en tant que sapeur-pompier. Je suis un peu gentil, j'apporte des
Vous
malades.
Vous êtes entre les deux mondes.
J'apporte des malades au professeur. C'est, vous voyez. Donc, mais je pense qu'au Mali, surtout à Bamako, c'est le social qui est en train d'effriter peut-être nos valeurs. Si vous voyez, le port de casque, c'est la loi, il faut simplement l'appliquer. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que peut-être que quelque part ça fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire en la matière. Mais moi, je pense que en allant vers l'application de la loi, ça va vraiment profiter à tout le monde. À moi, à vous, à tout le monde. Si vous voyez. Moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment aller dans le même sens que M. Touré. C'est, vous voyez, on a trop sensibilisé. Il faut aller maintenant vers la répression, il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que les chiffres sont vraiment alarmants. Au-delà des chiffres, les moyens manquent. Donc peut-être on va en venir.
On va en venir dans la
voilà,
troisième
mais
partie.
Je pense qu'il faut appliquer la loi. Ça va vraiment aller, comment dirais-je, à positiver vraiment nos actions. Peut-être que nos actions seront plus visibles quand on va aller vers la répression.
D'accord. Alors, on dit que le port du casque ne parvient pas à être effectif au Mali et pourtant les jeunes parviennent à payer les vignettes, sinon les motos vont en fourrière. Alors, est-ce que vous parvenez à faire un parallèle entre ces deux-là, rendre obligatoire le port du casque et mettre les engins en deux roues en règle? Est-ce que il y a beaucoup de différences entre les deux, Mokhtar Touré, Mokhtar Moussa Touré?
Bon, je crois que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble, si on a la volonté. C'est-à-dire, nous, un moment, nous avons approché les autorités en les disant, tout simplement pour rendre obligatoire les casques, il y a des techniques très simples qui peuvent se faire à la longueur de la journée. Tous les jours, c'est-à-dire les usagers de la route, ils ont peur d'être arrêtés par manque de vignettes. Si toutefois quelqu'un commet une infraction et qu'on l'arrête, on lui dit bon, vous n'aurez pas votre moto sans venir avec un casque. Je crois que c'est les moyens les plus simples par lesquels on pourrait adhérer au port de casque. Et nous avons initié aussi d'autres campagnes, allez-y dans les services publics d'abord, et rendre obligatoire les casques à tous les travailleurs. Ce ne reste que c'est-à-dire mentionner, c'est-à-dire le directeur met une note de service à tous les travailleurs doivent porter les casques avant de franchir le portail du service. Et en ce moment, les privés vont adhérer et vice-versa, tout le monde va adhérer à ce port de casque. Et c'est pour cela que nous, dans notre campagne, nous avons largement approché les jeunes. Porter un casque, il y a des gens qui disent qu'on a chaud dedans, on a autre chose dedans. C'est simplement pour ne pas porter. Simplement pour ne pas porter.
Et sinon, dans d'autres pays, c'est obligatoire et on ne peut conduire sans porter le casque.
Très bien. Nous étions au Niger pour pouvoir mener des campagnes, pour les aider à mener des campagnes. Nous avons vu comment est-ce qu'aux Nigériens, on les a obligés à porter le casque. Il faut que le gouvernement devienne fort. Au Niger, tout le monde porte le casque. Si tu ne portes pas le casque,
c'est par manque d'autorité qu'on ne porte pas les casques.
Moi, je dirais carrément que c'est par manque d'autorité. C'est par manque d'autorité. L'État a tous les moyens d'obliger les usagers à porter les casques.
Merci beaucoup, Mokhtar Moussa Touré de l'association Siraba Lakanda. Alors, professeur, aujourd'hui, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire seulement en zone hors agglomération. Est-ce que vous pensez que cela est normal?
Non, c'est pas normal, pas du tout. La raison, c'est qu'on peut mourir à Bamako, qu'on peut mourir dans la Faya. Donc, ce port de, le port de la ceinture de sécurité, ce doit être obligatoire dès lors qu'on s'assoit
dans
son fauteuil pour pouvoir conduire le véhicule. Mmh. Ça doit être obligatoire. En fait, je ne sais pas si derrière, il y a une ignorance par rapport à l'intérêt qu'apporte le port de la ceinture de sécurité. Mmh. Je crois qu'il y a encore une certaine pédagogie qu'il faut mettre en place lors de l'acquisition du permis de conduire. Mmh. Arriver à expliquer à ce futur détenteur du permis de conduire, donc à ce futur conducteur, qu'est-ce que ça lui apporte en mettant la ceinture de sécurité. Mmh. On a vu de hautes autorités dans ce pays-là qui sont morts parce qu'ils ont été projetés. Ils ont été simplement projetés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intéressé était assis, tout bonnement, n'avait pas
dans
la ceinture
voiture,
de sécurité,
sans,
c'est,
sans
ça. C'est ça. Hein? Donc pour dire que la ceinture de sécurité, ça doit, à mon humble avis, être aussi obligatoire que, comme le dit M. Touré, le port du casque. En fait, souvent, on a tendance à penser que c'est de la répression pour les autorités, mais à mon humble avis, c'est même une protection individuelle que chacun puisse arriver à porter le casque dès lors qu'on se met sur un engin à deux roues et à mettre une ceinture de sécurité dès lors qu'on s'assoit dans un véhicule. C'est sa propre sécurité. Mmh. Imaginez-vous, quand vous êtes dans un véhicule, vous êtes simplement assis dans le véhicule, votre foie, nous connaissons tous ce que c'est que le foie, le foie, il va peser 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo 500. Mais dès lors que vous êtes en train de rouler, vous êtes à 500 km, à 50 km heure, c'est que nous dépassons largement à Bamako, 50-60 km à l'heure. Imaginez-vous que votre foie va se retrouver avec un poids de plus de 20 kg. Et ce poids de plus de 20 kg, il est simplement tenu dans votre corps par un pédicule qui ne dépasse pas ça. Si vous freinez...
Qui ne dépasse pas un doigt.
Qui ne dépasse pas un doigt. Mmh. Et vous freinez, imaginez-vous 20 kg qui se
la
trouve
masse.
Être, la masse qui se trouve être retenue par un filet.
Pas plus gros qu'un doigt,
il va s'arracher. Mmh. Et c'est ce qui arrive très souvent. Ceux qui ne portent pas de ceinture de sécurité, dès lors que
vous êtes propulsé
ou bien vous freinez tout de suite, l'énergie cinétique emmagasinée fera que tous les organes qui sont mobiles à l'intérieur ont tendance à s'arracher. Donc, bonjour le décès. C'est ça, bonjour le décès.
Alors, est-ce que les praticiens que vous êtes, par exemple, vous êtes entendus, est-ce que vous faites entendre vos analyses, vos critiques aux autorités compétentes?
Je crois que si ce n'est que depuis 2 ans, pratiquement chaque année, j'anime une conférence sur les accidents de la voie publique.
Est-ce que la conférence est la voie la plus
claire? Je pense que moi, en tant que professeur d'université, je dois être un conseiller pour tout ce qui est politique. Parce que ça suppose que j'ai un certain recul par rapport à la gestion de ce type de patient qui m'amène à parler, à donner des messages qui, à mon avis, doivent être des messages qui sont écoutés et qui doivent être capitalisés. Et c'est dans cette optique-là, pratiquement chaque année, j'anime une conférence sur les accidents de la circulation en termes de conséquences, en termes d'impact et en termes de réduction de la mortalité. C'est ça. Moi, je crois que zéro décès n'existera jamais. Zéro accident n'existera jamais dans aucun pays, on a zéro accident. Par contre, nous devrons développer une politique qui consiste à réduire les morts entraînées par les accidents. Et ça, nous avons toute une philosophie derrière qu'on peut développer si on a le temps pour voir comment on peut réduire ces morts entraînées par les accidents.
Alors, merci beaucoup, professeur Diango Odibo. Alors, cette volonté politique, on espère que les autorités nous entendent, notamment la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que vous connaissez très certainement, qui a à un moment donné dirigé le service que vous dirigez en ce moment, Marie-Madeleine Togo. Alors, l'analyse des médecins est donc primordiale dans cette prévoyance contre les risques de la route. Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la troisième et dernière partie.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les risques liés à la route. Pour rappel, et selon la protection civile, près de 500 décès ont été enregistrés, des décès liés à la route durant ces trois derniers trimestres donc de 2015, et la période la plus meurtrière a fait plus de 200 morts. C'est la période allant de juillet à septembre 2015, la période donc des vacances, et les acteurs de ce domaine demandent plus de vigilance pour les fêtes de fin d'année qui s'approchent, notamment durant le mois de décembre. Alors nous sommes avec trois invités pour décortiquer tout cela. Nous arrivons à la phase des infrastructures, les infrastructures donc au Mali, les infrastructures routières répondent aujourd'hui telles aux attentes donc de la sécurité routière. Nous allons voir tout cela avec nos invités. Alors, colonel Djibril Tamboura de la protection civile, une chose est de demander aux citoyens, aux usagers d'être beaucoup plus vigilants, une autre chose est de leur offrir aujourd'hui des infrastructures adéquates pour pouvoir être plus en sécurité sur les routes. Aujourd'hui, est-ce que les infrastructures répondent présentes au Mali?
Merci de m'avoir posé cette question. Je pense que nous sommes dans un pays sous-développé, il faut le dire. Il y a des routes, mais c'est des routes qui méritent d'être entretenues. Et je pense que de 2000 à nos jours, on a fait suffisamment de routes urbaines à Bamako. Ça, il faut le dire, il faut saluer les autorités quand ils font du bon travail. Mais ça ne suffira toujours pas parce que nous avons une ville qui s'agrandit, nous avons une ville qui se développe, et il va falloir toujours initier des routes. Donc je pense que la route est un espace à partager. Et si tous les usagers se comportent de façon décente sur cette route,
de façon responsable,
Et bien je pense qu'on va diminuer considérablement les taux d'accidents de circulation. Et vous parlez d'infrastructure, moi je parlerai plutôt peut-être de la prise en charge. Par rapport à la prise en charge, surtout les sapeurs-pompiers, aujourd'hui nous à Bamako, nous avons 6 centres de secours.
Vous direz 6 centres de secours
à Bamako.
Pour plus de 2 millions,
d'habitants. Donc, auparavant, nous étions dans les années
2000. 6 centres répartis entre les 6 communes?
Non, pas exactement comme il le faut. Nous avons, par exemple, 2 compagnies à Bamako. Nous avons une direction régionale de la protection civile qui comprend 2 compagnies à Bamako. La première compagnie, c'est la compagnie de Dravela. Et à cette compagnie, il y a 4 centres de secours. Il y a le centre de secours de Dravela, le centre de secours de Sotiba, le centre de secours de l'ACI 2000 et le centre de secours de Kati. Parce que, comment dire, opérationnellement, Kati dépend de Bamako aujourd'hui, même si, du point de vue, gestion administrative, elle dépend de Kati dépend de Poulikoro.
Donc, aujourd'hui. Donc, seulement 3 alors?
Nous avons. Parce que.
À Dravela.
Il y a plus de, il y avait
puisque auparavant. La quatrième est à Kati.
Auparavant, il y avait une distance entre Kati et Bamako. Aujourd'hui, Kati et Bamako, je pense qu'on peut aller sans pour autant voir un arbre. Si vous voyez, Kati est carrément encastré dans Bamako aujourd'hui. Donc voilà pourquoi peut-être dans les jours à venir, Kati va être rattaché de façon opérationnelle à la protection civile à Koulikoro. Mais pour le moment, c'est la direction régionale de la protection civile de Bamako qui gère les centres de secours de Kati. Est-ce que vous voyez? Donc, de l'autre côté de la rive du fleuve Niger, nous avons la deuxième compagnie. Et à cette deuxième compagnie, nous avons un centre de secours de Sogoniko, le centre de secours de Bako-Djikoroni. Et puis, on a un centre de secours annexe qui se trouve aux 1008 logements que nous venons d'opérationnaliser. C'est un centre qui a vu naissance depuis les premiers logements sociaux, mais qui n'avait jamais été opérationnel parce que, vraiment, vous savez, un centre de secours de pompiers.
Donc, pour vous résumer, une insuffisance accrue donc de
moyens. C'est-à-dire, je veux parler qu'il faut aller vers un maillage conséquent du territoire de la ville de Bamako, même du Mali aujourd'hui, pour diminuer les distances d'intervention. Sinon, on arrivera tout parce que professionnellement parlant dans notre.
Quand vous parlez de maillage aujourd'hui, est-ce que les ressources humaines et les moyens dont vous disposez permettent ce maillage-là? Aujourd'hui, il faut quoi? Plus de recrutement?
Il faut d'abord aller vers la réalisation d'autres centres de secours parce que dans notre jargon sapeur-pompier, au-delà de 3 km, vous allez constater les dégâts. C'est-à-dire dans un rayon de 3 km, vous ne devez pas intervenir au-delà d'un rayon de 3 km. Et si vous voyez, or, aujourd'hui à Bamako, les centres de secours de Kati peuvent aller à Djema, les centres de secours de Dravela peuvent aller jusqu'à Fana, les centres de secours de Soniko peuvent aller jusqu'à Bouni pour aller intervenir. Puisque quand on dit, en tant qu'urgentiste, quand on dit qu'il y a un accident de circulation, vous n'allez pas attendre. Donc j'ai dit qu'il faut aller vers la réalisation des centres supplémentaires. Ça, il faut le mettre dans nos projets. Ensuite, par rapport aux facteurs humains, je pense que les autorités ont pris la chose à bras le corps parce que présentement, nous sommes en train de faire un recrutement de 500 sapeurs-pompiers à la protection civile. Et c'est, vous voyez. Donc, par rapport aussi à la qualité des ressources humaines, le professeur est là et peut en témoigner, nous avons aujourd'hui recruté des médecins à la protection civile. Il y avait à peu près une vingtaine de médecins aujourd'hui à la protection civile. Mais vous direz, pourquoi, comment dirais-je là, il y a toujours ces problèmes parce que il y a un problème de moyens.
De moyens.
Et c'est, vous voyez.
Sinon, la ressource humaine,
la ressource humaine est là. Parce qu'il faut, pour médicaliser une ambulance, il faut vraiment des moyens colossaux. C'est vrai. Voilà.
Merci,
tout ça.
Merci beaucoup, colonel Djibril Tamboura de la protection civile. Alors, du côté des associations de sensibilisation aux risques liés à la route, nous allons demander, est-ce qu'aujourd'hui, la ville de Bamako, par exemple, a les moyens nécessaires de pouvoir doter l'ensemble des communes de moyens de panneaux de signalisation, de feux tricolores et même de moyens de signalisation horizontale comme nous le voyons le plus souvent lors de la réflexion des routes ou bien de la réception donc des nouvelles routes, mais des signalisations horizontales qui sont quasiment inexistantes sur d'autres axes. Aujourd'hui, quelle est la place de la signalisation dans les risques liés à la route?
Merci pour la question. Effectivement, dans certains endroits, les signalisations sont quasi inexistantes. Qu'est-ce qui est dû à ça? C'est dû aussi des accidents. Il y a des accidents qui sont survenus, qui ont amené à arracher les panneaux, et que les panneaux ne sont jamais replantés. Donc nous, notre rôle, c'est de recenser. C'est partout où il y a eu des panneaux arrachés ou abîmés, c'est-à-dire de les recenser et de demander un moyen de les replanter. Donc c'est notre rôle. Là où il y a des passages piétons, c'est-à-dire que nous les rendons visibles. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent « Ah, on ne les voit pas, donc on ne pourrait pas ne pas les respecter. » Donc nous, pour les respecter, pour amener les gens à les respecter, nous les rendons visibles en mettant des peintures, sinon des peintures microbiologiques qui rendra visible même la nuit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire même actuellement. Nous sommes en campagne qu'on appelle opération passage piéton dans toute la ville de Bamako. Et opération panneau aussi, c'est-à-dire réhabiliter les panneaux abîmés ou les panneaux absents. Donc ça, c'est notre rôle. Et aussi sensibiliser les gens que, il faut circuler, mais il faut aussi regarder les panneaux. Parce qu'on a tendance que tellement les gens roulent en vitesse, il y a plus de 3 panneaux quand on est à 80 à l'heure. Tu peux dépasser 3 panneaux sans les voir. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent même pas les panneaux. Ils ne savent pas ce que veut dire même les panneaux. Quand ils montrent le panneau, ils te disent « Ah, je n'ai pas vu » ou « Je ne sais pas ce que c'est ». Donc voilà tous les facteurs là qui sont en train de causer d'énormes accidents aujourd'hui, surtout dans notre grande ville.
Alors très rapidement, nous allons voir le cas donc des visites de contrôle avec vous. On sait que c'est un autre problème, les visites de contrôle. Il n'y a qu'un seul endroit à Bamako pour le faire et également dans les régions. C'est généralement les services régionaux de la route qui sont en charge donc de cette action. Aujourd'hui à Bamako, est-ce que tous les véhicules et tous les engins respectent cette norme?
Bon, concernant ces volets, nous ne pouvons pas trop dire, puisque nous n'en savons pas beaucoup.
Le constat est visible.
Oui,
mais
nous voyons quand même, à chaque fois, c'est-à-dire sur tous les pare-brises des véhicules, on voit l'étiquette des contrôles techniques. Mais à chaque fois, il y a défaillance de freinage. On ne sait
même
pas.
Même à l'œil nu, on sent que la voiture n'a pas
Effectivement, à l'œil nu, on sait que
les signes qu'il faut.
Justement. Mm. Tu vois des véhicules qui sont en train de rouler, tu as l'impression qu'il est dans une autre direction. Mm. Le parallélisme est zéro, on pourrait dire comme ça. Mm. Donc, on ne sait pas, ces véhicules-là, ils sont rentrés au contrôle technique ou ils sont passés par à côté
et pourtant, les stickers sont bien visibles sur les pare-brise. Merci beaucoup Mokhtar Moussa Touré de l'association Sigida Lakana. Alors professeur, nous allons voir avec vous, tantôt le colonel parlait de la ressource des ressources humaines au niveau de la protection civile avec le recrutement de plusieurs médecins. Aujourd'hui, est-ce que la protection civile est dotée de ressources humaines assez qualifiées?
Merci. J'ai fait suffisamment parler de cette question dans la mesure où j'ai à peu près, jusqu'à une date récente, ils ont à peu près de 50-60% des médecins chez eux ont été formés par moi. Ils étaient dans mon service. Donc je peux tout à fait aborder la question.
C'est votre domaine alors.
Voilà. Mais je crois que il faut que le Mali, notre pays, comprenne qu'il y a un standard international et il faut qu'on rentre dans cette voie-là. Et ce standard international a montré que quand on prend 100 accidents, on a pratiquement 50% des accidents qui n'arriveront jamais à l'hôpital. Jamais.
Quelles en sont les causes?
Les causes, c'est un accident dans lequel on a pratiquement le véhicule qui a écrasé la victime.
Les passagers.
Voilà. Mmh. Là, on n'a aucun moyen qu'on soit au Mali ou qu'on soit aux États-Unis, on va mourir. D'accord? Et nous avons 30% qui ont la malchance ou la chance d'arriver à l'hôpital. 30%.
30%.
Donc ça veut dire quoi? Et nous avons les 50% qui vont arriver à l'hôpital et qui normalement ne doivent pas mourir.
Mais qui vont avoir des séquelles quand même.
Qui peuvent avoir des séquelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la dynamique de prise en charge de ces patients-là, de ces accidentés, doit être focalisée sur les 30%. Ceux-là qui peuvent arriver à l'hôpital, mais qui, si les moyens n'existent pas, n'arriveront pas à l'hôpital. Quels sont les moyens qu'il faut? C'est arriver, j'aime très souvent paraphraser l'ancien président en disant que les ARV vont aller au séropositif. Je dis souvent, pour les accidentés de la voie publique, il faut que l'hôpital aille aux accidents. Il faut sortir de cette logique-là. Je peux vous donner des statistiques.
Que les médecins interviennent sur place.
Il faut que les médecins interviennent sur le lieu de l'accident.
Pour pouvoir accompagner
pour pouvoir
les victimes.
Amener les victimes à l'hôpital.
Inverser
tout
la
à
tendance.
Fait, il faut alors. Rapidement changer cela. Il faut qu'on sorte. Je prends tous les pays limitrophes, en dehors de la Guinée. Tous les pays limitrophes ont créé ce qu'on appelle la médecine préhospitalière. Le dernier à le faire, c'est le Niger, il y a 2 ans. Il faut qu'on crée la médecine préhospitalière. C'est cette médecine dynamique qui va vers les accidentés, qui va les prendre, qui va les conditionner. C'est un hôpital qui vient aux malades. Et qui va amener un patient qui est bien techniqué au niveau de l'hôpital. Si on ne fait pas ça, malheureusement,
on peut pas prévenir.
On va soulever, on va relever un patient peut-être, mais on va amener un corps au niveau de l'hôpital. Ça, c'est hyper important. Les autres ne comprennent pas ça. Le malade, les conditions dans lesquelles on va l'amener à l'hôpital, il a 80 voire 100% de chances de mourir dans les minutes qui suivent.
L'évacuation.
Donc, bien entendu. Vous prenez un accidenté qui a un traumatisme au niveau du cou, vous le transportez comme un sac de patates, il n'arrivera pas à l'hôpital. C'est clair et net. Donc il faut que le Mali rentre dans cette dynamique qui consiste à créer un hôpital avant l'hôpital.
D'accord.
Et ça, c'est dans tous les pays, c'est relativement facile. Je suis désolé de le dire, c'est relativement facile à faire. Si le Niger l'a fait, il n'y a pas de raison que le Mali ne puisse pas le faire.
Merci beaucoup, professeur Diango Dibo. Un grand merci à vous pour votre disponibilité, malgré vos tâches que nous savons très chargées. Alors, merci beaucoup à vous, professeur Diango Dibo. Colonel Dibril Tamboura de la Protection Civile, un grand merci à vous. Sans oublier Mokhtar Moussa Touré de l'association Sigida Lakanda. Merci à vous pour votre disponibilité. Nous sommes à la fin de cette émission. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique, Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission et Lassine Sinantao était à la régie vidéo. Nous vous disons merci et à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.